Bonjour Michel.
Bonjour Nawel.
Comment ça va?
Ça va bien. Un peu. Maintenant que les grandes chaleurs sont passées, ce qui était un peu pénible. Et comme je vais le dire tout à l'heure, la nuit commence à arriver de plus en plus tôt. Donc pour les astronomes amateurs, c'est une
C'est
bonne
le bon
chose.
moment. Bah, tu viens de faire ta chronique astro tout de suite.
Voilà.
Bah, alors tu vas nous parler de la relève de l'équipage de l'ISS
Voilà, comme
aujourd'hui.
tous les 3 mois, environ la moitié de l'équipage de l'ISS, la Station spatiale internationale, est remplacée alternativement via une capsule américaine ou un Soyouz russe. Les passagers effectueront généralement des missions d'environ 6 mois. Ces derniers jours, c'est à bord d'un Crew Dragon de SpaceX, lancé le 26 août par une fusée Falcon 9, que l'équipage de 4 astronautes a rejoint l'ISS dimanche 27 août, portant temporairement son effectif à 11, en attendant que les 4 membres les plus anciens à bord reviennent sur Terre la semaine prochaine. Les 4 nouveaux arrivés sont l'américaine Jasmine Mokbeli, la capitaine du vol, le japonais Satoshi Furukawa, le russe Konstantin Borisov. Je rappelle que l'ISS reste le seul domaine où la coopération spatiale avec les Russes perdure, et le danois Andreas Mogensen, qui était le pilote du vaisseau, ce qui était une première pour un astronaute de l'ESA, l'Agence spatiale européenne. À noter qu'il prendra aussi le rôle de commandant de l'ISS à partir de mi-septembre jusqu'à la fin de son séjour, soit plus de 5 mois. Poste que notre Thomas Pesquet national n'avait tenu qu'une quinzaine de jours en octobre 2021. Je rappelle que cette responsabilité est un des critères de la NASA pour qualifier les futurs astronautes pour des missions lunaires Artemis.
Et du coup, la NASA a perdu le contact avec une de ses sondes les plus lointaines de la Terre?
En effet, l'agence américaine s'est fait une petite frayeur fin juillet, car suite à une mauvaise commande envoyée à Voyager 2 le 21 juillet, cette sonde avait été mal orientée avec un écart de 2 degrés de son antenne par rapport à la Terre, ce qui rendait toute communication impossible. Même si la situation n'était pas désespérée, car un recalage automatique devait se produire en octobre, la NASA a tout tenté pour rétablir le contact avec la sonde, tout d'abord en utilisant le réseau Deep Space Network afin d'essayer de capter les messages envoyés par l'engin, ce qui a été réussi le 1er août en recevant un signal trop faible pour être intelligible. Puis 2 jours plus tard, le même dispositif a été utilisé pour lui envoyer un signal très puissant, lui donnant l'ordre de se recaler correctement en direction de la Terre. Tentative qui a réussi, car le 4 août, on recevait de nouveau les messages de Voyager 2, qui nous transmet régulièrement les mesures qu'elle prend de son environnement. Je rappelle que les 2 sondes Voyager ont été lancées il y a plus de 45 ans, en septembre 1977, pour visiter les planètes géantes gazeuses de Jupiter en 1979 à Neptune en 1989, puis qu'elles ont poursuivi leur trajectoire qui les amène à la frontière du système solaire en devenant les engins les plus lointains de la Terre jamais lancés par l'homme. Voyager 1 à près de 24 milliards de kilomètres, dépassant Voyager 2 à 20 milliards de kilomètres. Cela veut dire que la lumière ou les ondes radio utilisées pour communiquer avec elle mettent respectivement 22 heures et 18 heures et demie pour parcourir ces distances. Donc quand on envoie un message à Voyager 2, sa réponse nous parvient environ 37 heures plus tard, soit un jour et demi.
Il y a encore eu un souci de la NASA qui pourrait voir sa mission, sa prochaine mission importante annulée.
Alors c'est une question de budget qui met en péril la mission MSR, Mars Sample Return, ou en français Retour des échantillons martiens. Depuis qu'il s'est posé sur la planète rouge en février 2021, le rover Perseverance récolte des échantillons de sol qui doivent être apportés sur Terre au début des années 2030 par la mission MSR, en coopération avec l'ESA, qui pourrait être lancée lors d'une des prochaines oppositions en 2026 ou 2028. Malheureusement, le comité du Sénat américain qui supervise le budget de la NASA a publié mi-juillet un rapport dans lequel l'annulation de cette mission est évoquée, car son coût est jugé trop élevé, dépassant largement les 5,3 milliards de dollars alloués à cette mission, dont l'évaluation actuelle atteindrait les 10 milliards de dollars. Et on menace de redéployer les 300 millions de dollars prévus pour cette opération en 2024 vers d'autres programmes, comme Artemis ou le drone d'exploration de Titan, Dragonfly. Mais rien n'est joué, car la coopération avec l'ESA, qui a déjà largement investi dans sa part de la mission, l'engin HERO, Earth Return Orbiter, l'orbiteur de retour des échantillons vers la Terre, peut peser lourd dans la décision finale, comme ça avait été le cas lorsque des menaces pesaient sur la mission Cassini vers Saturne, ce qui mettait en péril la partie européenne, l'atterrisseur Huygens destiné à explorer Titan. De plus, il y a aussi une autre considération géopolitique à prendre en compte, car dans la compétition spatiale qui oppose de plus en plus les États-Unis et la Chine, il y a eu l'annonce par la CNSA, l'agence spatiale chinoise, après la réussite de Tianwen-1 qui s'est posé sur Mars en mai 2021 avec son rover Zhurong, d'une mission Tianwen-3 dont l'objectif serait le retour d'échantillons martiens sur Terre vers 2031. Le dossier devrait connaître une étape décisive en septembre avec la publication d'un rapport d'évaluation de la mission MSR par un groupe d'experts indépendants. À noter que dans la dernière version de MSR, le rover chargé de récupérer les échantillons à la surface de Mars a été remplacé par deux drones hélicoptères suite au très grand succès du prototype Ingenuity qui accompagne Persévérance. J'en profite pour donner des nouvelles de ce drone, car ces dernières semaines, l'équipe du JPL qu'il supervise s'est fait quelques frayeurs. Au printemps, en se posant derrière une petite crête, il avait perdu provisoirement le contact avec Persévérance, qui assure le relais de ses communications avec la Terre. Mais le 22 juillet dernier, l'alerte a été plus sérieuse. Suite à une désynchronisation entre les données de vol et l'analyse des images fournies par ses caméras, le petit hélicoptère a dû se poser en urgence, sous le contrôle d'un programme spécifique se déclenchant en cas de situation imprévue et baptisé Land Now, soit en français « atterrir tout de suite », pour lui éviter de percuter un obstacle si son vol est mal contrôlé. Pour vérifier que le problème n'avait été que temporaire, les ingénieurs lui ont ensuite programmé un petit vol de test consistant à monter à 10 mètres d'altitude pour filmer Persévérance. Et le 12 août dernier, il a pu réussir sans problème son 55e vol, qui lui a fait parcourir 264 mètres à 10 mètres d'altitude en environ 2 minutes et demie. Depuis son premier essai en avril 2021, Ingenuity aura passé environ 100 minutes en vol et parcouru au total 12 km et demi. Ce n'est pas mal pour ce drone de test dont on espère au départ pouvoir réussir 5 ou 6 vols d'essai.
Et enfin, ça se bouscule du côté de la Lune.
La dernière fois, j'avais parlé de la mission indienne Chandrayaan 3, qui avait été lancée le 14 juillet et devait se poser sur la Lune fin août. Mais dans l'intervalle, les Russes nous ont fait la surprise de lancer leur sonde Luna 25, car je n'avais pas vu d'annonce de cette mission reportée à de multiples reprises depuis 2016. En effet, cela fait presque 50 ans que les Russes n'ont pas posé d'engin sur la Lune, exploit qu'ils avaient répété 6 fois entre 1966 et 1976, la dernière Luna 24 en août 1976, avec 3 retours d'échantillons vers la Terre pour un total d'environ 300 grammes. Je rappelle que seulement 2 autres nations ont réussi un alunissage en douceur. Les États-Unis avec des sondes automatiques, mais surtout les missions habitées Apollo, ayant posé au total 12 hommes sur la Lune et rapporté près de 400 kg de roches lunaires, et la Chine avec 3 sondes Chang'e, de Chang'e 3 en 2013 à Chang'e 5 en 2020. Luna 25, d'une masse de 1,7 tonne au décollage, devait se poser dans la région du pôle sud, dans le cratère Boguslavski, à près de 73 degrés de latitude sud, ce qui correspondrait à peu près à l'extrême nord de la Norvège par rapport au pôle nord terrestre. Alimentée par un générateur nucléaire lui permettant de s'affranchir des rigueurs des nuits lunaires, elle devait pouvoir rester en service jusqu'à un an, principalement pour des analyses très détaillées du sol. Malheureusement, 4 jours après sa mise en orbite réussie autour de la Lune, le contact a été perdu lors d'une manœuvre visant à diminuer son altitude et elle s'est crashée le 19 août dernier.
Et qu'en est-il de la sonde indienne ?
Alors Chandrayaan 3 a connu plus de succès car elle a réussi à se poser en douceur le 23 août, faisant rentrer l'Inde comme 4e membre du club très restreint des nations ayant réussi un alunissage. Je rappelle que c'était la 2e tentative de l'ISRO, l'agence spatiale indienne, qui après le succès de l'orbiteur Chandrayaan 1 en 2008, avait tenté une première fois de poser Chandrayaan 2 en septembre 2019, mais cela s'était terminé par un crash. La sonde qui vient d'alunir pèse dans les 1,5 tonnes et comprend un petit rover de 26 kg, baptisé Pragyan, et inspiré de la mission martienne Pathfinder de la NASA en 1997. Il a descendu sa rampe pour rejoindre la surface lunaire le 25 août, et on trouve facilement sur Internet des images de cette opération, ainsi que de la descente de la sonde vers la Lune 2 jours plus tôt. On remarquera sur cette vidéo les ombres très allongées de l'atterrisseur et du rover, ainsi que le panneau solaire de celui-ci qui est pratiquement vertical. En effet, l'ISRO a choisi de se poser près du pôle sud lunaire, un peu moins près que le site visé par Luna 15, mais surtout au petit matin, si j'ose dire, c'est-à-dire peu après le lever du soleil sur le site, et c'est un élément crucial pour la durée de cette mission. En effet, Chandrayaan 3 et son rover sont alimentés par des panneaux solaires, ce qui ne leur permettra pas de survivre à la nuit lunaire où la température descend vers les moins 180 degrés, ce qui est fatal pour les circuits électroniques, sauf si l'on pouvait disposer de batteries pour les maintenir à une température supportable, mais cette solution était trop coûteuse en poids par rapport aux capacités de la fusée indienne qui a propulsé la sonde vers la Lune. Les engins ne pourront donc fonctionner qu'environ 14 jours, car la durée d'une journée lunaire est d'environ 28 jours. Comme on peut le constater avec la lunaison, le cycle de la Lune d'une nouvelle Lune à la suivante, d'une durée d'environ un mois, 29 jours et demi pour être précis, mais qui dépasse légèrement la durée d'une journée lunaire en raison de la révolution du couple Terre-Lune autour du Soleil. Outre la réussite d'un premier alunissage, l'objectif de cette mission est également d'analyser le sol lunaire comme aurait dû le faire l'UNA 15.
Et le Japon aura lui aussi sa sonde lunaire ?
En effet, c'est demain 31 août, ou les jours suivants, que la JAXA, l'agence spatiale japonaise, doit lancer sa propre sonde lunaire baptisée SLIM, pour Smart Lander for Investigating Moon, ou en français, atterrisseur intelligent pour explorer la Lune. Ce qui est aussi une allusion au fait qu'il s'agit d'un engin plutôt léger, de 190 kg, plus environ 500 kg de carburant au départ, SLIM signifiant « mince » en anglais. Si tout se passe bien, elle se mettra en orbite lunaire 3 à 4 mois plus tard, car elle s'éloignera de la Terre très progressivement avec des orbites de plus en plus elliptiques, et elle se posera un mois après. À noter que ce sera la deuxième tentative japonaise après la mission privée Akito de la société eSpace en coopération avec les Émirats Arabes Unis, lancée en décembre 2022, qui s'est écrasée sur la Lune en avril dernier. Contrairement aux missions que nous venons d'évoquer, SLIM ne vise pas le pôle sud lunaire, mais devrait se poser dans la région du cratère Cyrille, à seulement 13 degrés au sud de l'équateur lunaire. Un gros cratère de près de 100 km de diamètre, bien connu des astronomes amateurs, car avec ses deux voisins de taille comparable, Théophile et Catherine, il constitue un bel ensemble à observer dans des petits télescopes. Plus précisément, il doit se poser près du petit cratère Chioli de 270 mètres de diamètre, et devrait y étudier les roches pour les comparer avec les roches terrestres et fournir des informations sur l'origine de la Lune, dont je rappelle que le modèle actuel serait une formation à partir de fragments éjectés lors de la collision de la jeune Terre avec un planétoïde de la taille de Mars, il y aurait environ 4,5 milliards d'années, seulement 30 à 60 millions d'années après le début de la formation des planètes autour du Soleil. Une particularité de SLIM est qu'il emportera deux prototypes de mini-rover de seulement 8 cm de diamètre, des sortes de boules rampantes destinées à prendre des images, conçues par la JAXA en collaboration avec le fabricant de jouets Takara Tomy. On peut trouver sur YouTube une vidéo de démonstration de ces petits dispositifs assez insolites. Par ailleurs, SLIM partagera sa fusée de lancement avec le télescope spatial X-RISM, fruit d'une coopération JAXA-NASA-ESA, qui observera le ciel dans le domaine des rayons X depuis une orbite terrestre à 550 km d'altitude.
Alors, pour rester dans ce sujet, du coup, ce serait une course vers le pôle sud de la Lune, ça ?
Voilà, j'ai choisi ce sujet au vu de l'actualité avec ces sondes lunaires Luna 25 et Chandrayaan 3 qui cherchent à explorer la région sud de la Lune, et j'ai pensé que cela nécessitait une petite explication. Si on reprend rapidement l'historique de l'exploration lunaire par l'homme, on constatera qu'il y a eu deux périodes bien distinctes. Tout d'abord, les débuts de l'ère spatiale des années 1960, avec la rivalité entre les États-Unis et l'URSS, et d'abord, les nombreux succès de celle-ci dans le domaine des sondes automatiques. La première approche de la surface lunaire en janvier 1959 par Luna 1, la première sonde percutant la Lune avec Luna 2 en septembre de la même année, puis les premières photos de la face cachée en octobre avec Luna 3, ce qui explique d'ailleurs que les reliefs de cette moitié de la Lune aient été baptisés par les Soviétiques. C'est aussi à eux que l'on doit le premier alunissage en douceur avec Luna 9 en janvier 1966, qui nous a envoyé les premières photos prises depuis la surface, et la première mise en orbite pour plusieurs semaines avec Luna 10 en mars de la même année. Cette énumération permet de constater à quel point cette exploration lunaire était intense à cette époque, avec plusieurs missions chaque année de la part de chacun des deux blocs rivaux. Puis, comme on le sait tous, ce sera l'événement historique des premiers hommes sur la Lune avec la réussite du programme habité américain Apollo entre 1969 et 1972. Et cette ère se termine encore avec quelques sondes soviétiques visant notamment à rapporter des échantillons sur Terre jusqu'à Luna 24 en 1976. Puis il y a eu une longue pause dans les années 1980-90 avec seulement trois orbiteurs, Eaton de la JAXA en 1990, Clementine et Lunar Prospector de la NASA en 1994 et 1998. Et ce n'est que dans les années 2000 que l'exploration lunaire reprend de manière beaucoup plus active, avec, hein, cocorico si j'ose dire, la mission européenne SMART 1 en 2003, suivie de toute une série d'orbiteurs japonais, chinois, indiens et américains jusqu'en 2013, puis le retour à la surface lunaire avec Chang'e 3 en 2013, Chang'e 4 en 2018 sur la face cachée de notre satellite, et Chang'e 5 en 2020 qui a renvoyé des échantillons de sol vers la Terre. Et enfin, les missions dont nous venons de parler, sans oublier bien sûr le programme habité de la NASA Artemis, qui vise à ramener des hommes sur la Lune à l'horizon 2025, et dont le premier test sans équipage Artemis 1 était réussi à la fin de l'année dernière. Et bien sûr, les ambitions analogues de la Chine, dont le programme est moins bien connu, mais dont on pense qu'il devrait conduire aussi à poser des hommes sur la Lune à une échéance analogue, si ce n'est en devançant même la mission américaine Artemis 3.
Mais du coup, pourquoi toutes ces missions, toutes ces nations spatiales veulent-elles retourner sur la Lune ?
Alors c'est une très bonne question, car si les considérations géopolitiques sont toujours de mise, avec le prestige de réussir en premier cet exploit, notamment dans le cadre de la rivalité USA-Chine, et que le motif scientifique de mieux connaître notre satellite naturel et son histoire sont toujours là, les ambitions sont aujourd'hui bien différentes de celles des années 1960-70. Même si les premières missions humaines seront de courte durée, comme Artemis 3 avec un séjour prévu de l'ordre d'une semaine, ce qui dépasse nettement les trois dernières missions Apollo qui sont restées dans les trois jours sur la Lune, l'objectif est de pouvoir installer une base permanente où des astronautes pourraient séjourner des semaines, voire des mois, un peu comme les équipages de l'ISS. Et ce ne serait pas que pour des travaux d'exploration scientifique, car le but serait une exploitation des ressources de la Lune à des fins commerciales ou pour préparer de futures missions plus lointaines, par exemple vers Mars. Ce sera la phase 2 du programme Artemis, qui commence en 2026, juste après la mission Artemis 3, et devrait se poursuivre jusqu'aux années 2030, pour construire une installation permanente dans la région du pôle Sud. Les ressources que l'on pourrait tirer des roches lunaires, et surtout du régolithe, la poussière très fine qui recouvre toute la surface lunaire, souvent sur une épaisseur de plusieurs mètres, sont par exemple l'oxygène, le silicium, le fer, la bauxite permettant de produire l'aluminium. Bien entendu, le coût d'exploitation de ces ressources en vue de leur consommation sur Terre ne sera jamais compétitif par rapport à l'utilisation des ressources identiques déjà présentes sur notre planète. Leur intérêt ne serait que pour une utilisation locale, si on imagine une colonisation progressive de la Lune avec une population humaine croissante, ou dans le cadre de futures missions spatiales à longue distance. En effet, la Lune étant bien plus petite que la Terre, environ un quart de son diamètre, sa masse est bien plus faible, environ un centième de celle de la Terre. Ce qui, si on se souvient un peu des lois de Newton concernant la gravité, donne une attraction bien plus faible à la surface, environ un sixième de celle à la surface de la Terre. Donc pour envoyer une fusée identique, par exemple à destination de Mars, l'énergie nécessaire pour le faire depuis la Lune serait bien moindre que depuis la Terre. La Lune pourrait donc devenir une sorte de chantier spatial dans le futur, si on parvient à exploiter les ressources minières pour fabriquer de futurs vaisseaux, ou au moins les remplir de carburant s'ils ont été acheminés vides, donc bien plus légers depuis la Terre. À titre d'exemple, le carburant représente environ 91% de la masse au décollage du premier étage du lanceur lourd SLS, du programme Artemis, soit dans les 980 tonnes pour un poids à vide de seulement 85 tonnes.
Et donc, si j'ai bien compris, ce serait pour une exploitation de la Lune pour y vivre ou pour la conquête spatiale ?
Voilà. À ma connaissance, il existe une seule exception à cette exploitation locale ou pour des missions spatiales des ressources présentes à la surface lunaire, c'est l'hélium 3. Nos auditeurs savent certainement que l'exploitation de l'énergie nucléaire dans les centrales actuelles repose sur la fission, c'est-à-dire la destruction d'un noyau atomique lourd, par exemple l'uranium-235, en noyaux plus petits, ce qui dégage de la chaleur, exploitée pour produire de la vapeur, transformée en électricité dans des turbines. Cette solution, la seule exploitable actuellement, présente de nombreux inconvénients, notamment la production de déchets radioactifs dont la gestion est problématique à long terme. Cette fission est également à l'œuvre dans les bombes atomiques ou bombes A, comme on peut le voir dans le film historique Oppenheimer, relatant le projet Manhattan ayant conduit à la fabrication des premières bombes de ce type par les États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il existe une autre forme d'énergie nucléaire avec un rendement bien supérieur en exploitant exactement l'effet inverse, la fusion de noyaux légers en un plus lourd, par exemple de l'hydrogène vers l'hélium. C'est celle qui est mise en œuvre dans les bombes thermonucléaires ou bombes H, évoquées aussi dans le film. Mais au départ, c'est surtout l'énergie des étoiles, comme notre Soleil, dont la masse énorme, environ 300 000 fois celle de la Terre, produit en son cœur une densité et une température élevées permettant de produire ses réactions de fusion. Malheureusement, cette forme d'énergie nucléaire plus efficace et plus propre n'a pas encore pu être mise en œuvre sur Terre, mais on travaille sur le sujet avec de grandes installations nommées tokamak, destinées à obtenir un confinement magnétique du plasma très chaud au sein duquel devra s'amorcer la réaction. En effet, ne pouvant pas bénéficier sur Terre de la pression énorme qui règne au cœur du Soleil, c'est à des températures extrêmes que pourrait démarrer la réaction de fusion, de l'ordre de 150 millions de degrés, contre seulement, si je peux dire, 15 millions de degrés au cœur du Soleil. Parmi les grands projets expérimentaux, nos éditeurs ont sans doute déjà entendu parler de ITER, fruit de la coopération de 35 pays, dont la construction dans le sud de la France, près de Cadarache, où se trouve un centre de recherche du CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, doit aboutir à sa mise en service en 2030. Un des problèmes, c'est que les expérimentations actuelles portent sur des réactions basées sur deux isotopes de l'hydrogène, le deutérium et le tritium, réactions produisant des neutrons très énergétiques qui endommagent les matériaux et provoquent une irradiation très élevée du réacteur. C'est là que l'hélium-3, un isotope de l'hélium, est peut-être la solution d'avenir, car il a une forte capacité à absorber ces neutrons, et une réaction à base d'hélium-3 et de deutérium, malheureusement possible qu'à des températures encore plus élevées de l'ordre de 600 millions de degrés, éviterait cette production de neutrons rapides et permettrait d'envisager une réaction plus propre, ne produisant pratiquement pas de déchets radioactifs. L'hélium-3 est produit par le Soleil et nous parvient comme d'autres particules par ce qu'on appelle le vent solaire. Malheureusement, il se dégrade dans l'atmosphère, ce qui fait qu'il est très rare sur Terre. A l'inverse, comme la Lune ne possède pas d'atmosphère, il atteint sa surface sans problème. Et, en caricaturant un petit peu, on pourrait dire qu'il imprègne le régolithe lunaire. D'où l'idée de devoir un jour l'extraire, ce pétrole, si je peux dire, du 21e ou 22e siècle, pour alimenter nos futures centrales nucléaires, même s'il faut pour cela manipuler des tonnes et des tonnes de régolithe pour n'obtenir que de petites quantités de ce précieux élément, dont pour le coup, l'exploitation lunaire serait rentable et justifierait une implantation permanente d'ouvriers sur la Lune pour faire fonctionner ces mines. On peut voir ce concept très bien illustré, à mon avis, dans le film de science-fiction Moon, réalisé en 2009 par le Britannique Duncan Jones.
Mais du coup, pourquoi prévoir ces implantations dans la région du pôle sud de la Lune ?
Alors c'est simplement pour une question de géographie. Quand on observe la Lune à l'œil nu dans une paire de jumelles, on constate facilement qu'il existe de grandes zones grises plutôt vers le nord, les grandes plaines plates de basalte qu'on nomme mer, alors que vers le sud, il y a une bien plus grande proportion de cratères d'impact. C'est encore plus saisissant dans un petit télescope où ces reliefs tourmentés du sud montrent des paysages chaotiques avec des jeux d'ombre et de lumière compliqués. Ce sont ces cratères qui font tout l'intérêt du pôle sud, et notamment ceux tellement près du sud que l'éclairage rasant du soleil ne peut jamais pénétrer à l'intérieur, qui se trouve donc perpétuellement plongé dans la nuit. Et ça, c'est très intéressant pour deux raisons. La première tient à la fragilité des astronautes, dont le corps ne peut pas supporter longtemps d'être soumis au rayonnement cosmique, et principalement à celui provenant en permanence du Soleil. À la surface de la Terre, nous en sommes largement préservés par notre atmosphère et par le champ magnétique terrestre. Mais dès qu'on s'éloigne beaucoup de notre planète, on baigne dans des rayonnements bien plus intenses, et c'est très dangereux au-delà de quelques jours. Si le fond des cratères d'impact situés près du pôle sud sont toujours plongés dans l'ombre, ça veut dire que leurs parois bloquent la lumière provenant du Soleil, mais aussi tous les rayonnements plus énergétiques, donc plus dangereux. On pourrait donc envisager de séjourner dans de tels sites pendant des semaines ou des mois sans courir trop de risques. L'autre raison, c'est que sur la Lune, ombre veut dire aussi température très basse. On dit généralement dans les moins 180 degrés, mais ça peut descendre jusqu'à moins 250 dans ces cratères du Sud, comme mesuré par la sonde américaine Lunar Reconnaissance Orbiter ou LRO. Et à de telles températures, de la glace d'eau pourrait exister à la surface ou très près de la surface, malgré l'absence d'atmosphère, donc sous une pression quasi nulle. Et cela a été confirmé en 2018 par les résultats du Moon Mineralogy Mapper, en français cartographe de la minéralogie lunaire, un instrument de la NASA embarqué par la sonde indienne Chandrayaan 1, visant à établir la carte des minéraux présents à la surface de la Lune, dont la glace d'eau. Cette présence d'eau en bonne quantité est un facteur décisif pour l'implantation humaine, car en la faisant fondre, on produira l'eau nécessaire à la consommation et l'alimentation, des astronautes sans être obligés de la porter depuis la Terre, ce qui représenterait des masses très coûteuses à transférer. Cette eau serait aussi utile pour des cultures vivrières sous serre, permettant de consommer des légumes et des fruits frais. Des expériences menées sur Terre ont démontré aussi que cette eau, mélangée aux régolithes lunaires et quelques additifs, permet de produire une sorte de béton qui pourrait servir à la construction de bâtiments d'une future base lunaire. Et si l'on se rappelle la formule chimique de l'eau, H2O, on déduit qu'on peut la séparer en hydrogène et oxygène pour peu qu'on dispose d'une énergie électrique suffisante pour réaliser une électrolyse. Or, sur la Lune, l'énergie solaire est environ 3 fois supérieure à ce que peuvent récolter des panneaux solaires sur Terre. Mais bien entendu, pas en les plaçant à l'ombre au fond du cratère, mais quelques kilomètres plus loin, au sommet de sa paroi. Voilà qui résoudrait la production d'un autre élément indispensable à la vie des astronautes, l'oxygène permettant leur respiration. Mais pas seulement, car l'oxygène et l'hydrogène sous forme liquide, ce qui est bien plus facile d'obtenir aux températures très basses qui règnent dans ces cratères que sur Terre, peuvent être les carburants nécessaires pour les fusées des missions plus lointaines que j'évoquais tout à l'heure. Par exemple, c'est la combinaison de carburants utilisée par le lanceur Delta IV de la NASA, utilisé notamment pour le premier test de la capsule Orion du programme Artemis en 2014. Comme on le voit, les cratères du pôle sud de la Lune semblent une solution idéale pour de futures implantations humaines de longue durée, et cela explique qu'on essaie de les étudier de plus près avec les sondes récentes comme orbiteurs ou atterrisseurs comme Chandrayaan 3.
Et donc pour finir, on va se tourner vers le ciel du mois.
Alors comme chaque mois, je renvoie nos éditeurs vers la rubrique ciel du mois de la section astronomie de notre site web www.constellationsetgalaxiestoutaupluriel.org pour voir les cartes du ciel correspondantes. C'est difficile de montrer des cartes à la radio et avoir plus de détails. Je les mettrai à jour pour septembre d'ici la fin de la semaine. Au moment d'entamer le dernier mois d'été, les conditions commencent à redevenir un peu plus favorables pour les observateurs du ciel nocturne, avec un soleil qui se couche en ce moment vers 20h40 et la nuit arrive vers 21h45 ou 22h30 si on attend un ciel bien noir. Fin septembre, ce sera pratiquement une heure plus tôt, avec le coucher vers 19h45 et la nuit vers 20h45. Maintenant, en plein été, ce sont les conditions typiques de cette saison qui occupent la plus grande partie du ciel au début de la nuit, même si quelques-unes du ciel de printemps sont encore visibles vers l'ouest avant de se coucher, notamment le Bouvier, dont l'étoile la plus brillante Arcturus est facile à trouver en prolongeant l'arc de la queue de la casserole, la partie la plus brillante de la Grande Ourse. Et à côté du Bouvier, la couronne boréale dessinant un demi-cercle. Pour celles de l'été, on les reconnaît facilement avec les 3 étoiles brillantes qui forment le fameux triangle de l'été, visible dès le crépuscule. Vega, la plus haute, pratiquement au zénith, c'est-à-dire au-dessus de notre tête, Deneb, la plus à l'est, et Altaïr, la plus basse, permettant de situer leurs constellations respectives de la Lyre, du Cygne et de l'Aigle. Si le ciel est assez noir, on pourra distinguer le long du Cygne et de l'Aigle le ruban laiteux de la Voie lactée, incliné à peu près à 45 degrés, et qui nous conduit vers l'horizon sud à 2 autres constellations bien reconnaissables, du Sagittaire et du Scorpion. À l'est, ce sont déjà des constellations de l'automne qui se montrent, notamment Pégase, bien reconnaissable à son grand carré, et dans le prolongement de sa diagonale, Andromède, dans laquelle on peut distinguer l'objet le plus lointain visible à l'œil nu, la grande galaxie M31, située à environ 2,5 millions d'années de lumière de nous. Aux jumelles, elle apparaît déjà comme une tache ovale, mais bien entendu, elle est beaucoup plus belle vue dans un petit télescope ou une lunette astronomique. Avec le raccourcissement des jours en septembre, la situation sera analogue en début de nuit, fin septembre, avec le Bouvier un peu plus bas vers l'ouest, le Scorpion commencement à se coucher et Pégase plus haut à l'est, laissant apparaître juste en dessous les poissons qui dessinent comme un grand V. Côté planète, nous ne sommes pas gâtés, car Saturne, la seule visible le soir, ne se lève que vers 20h30, donc est encore trop basse en début de nuit pour être observée dans de bonnes conditions. Il vaut mieux patienter jusqu'à minuit pour la laisser monter dans le ciel au sud-est. Idem pour Jupiter qui se lève vers 23h, mais il vaut mieux attendre 2 heures de plus pour la voir plus haute. À la fin du mois de septembre, ils se lèveront respectivement vers 18h30 et 21h, ce qui rendra leur observation plus facile en soirée. Saturne dès le début de nuit, Jupiter plutôt vers 23h. Pour les lève-tôt, la très brillante Vénus nous est revenue dans le ciel du matin, à l'est, mais actuellement dans les lueurs de l'aube, à partir de 6h environ. Mais ce sera bien plus tôt et elle sera plus haute fin septembre, puisqu'elle se lèvera vers 4h15. Comme chaque mois, la Lune s'invitera près de ses planètes en produisant des conjonctions. Ce soir, la pleine Lune se lèvera proche de Saturne, à peu près la largeur de deux doigts bras tendus. Puis lundi 4 septembre, à partir de 23h, la Lune gibbeuse se lèvera près de la brillante Jupiter. Puis il faudra patienter jusqu'au mardi 12 pour voir vers 4h30 un fin croissant de Lune se lever presque en même temps que la très brillante Vénus. Et vers la fin du mois, le mardi 26, la Lune gibbeuse retrouvera Saturne dans le ciel du soir. À partir du 15 septembre et jusqu'au 5 octobre, on pourra voir l'ISS, la Station Spatiale Internationale, traverser le ciel en soirée. Les horaires précis seront indiqués sur la page Ciel du mois de notre site, mais on peut aussi les trouver, avec plus de précision en indiquant sa position, sur le site Events Above. Le 12 août dernier, un astronome amateur japonais, Eido Nishimura, a découvert une petite comète qui porte donc son nom. Pour être précis, elle est baptisée C2023P1 Nishimura. J'en parle car selon les spécialistes, ce qui n'est pas plus fiable que les prévisions météo à mon avis, elle pourrait devenir tellement lumineuse qu'elle serait visible à l'œil nu et sans aucun doute dans une paire de jumelles vers la mi-septembre quand elle passera à son périhélie, c'est-à-dire au plus près du Soleil, sur sa trajectoire le 18 septembre précisément. Malheureusement, quand on observe les cartes, elle sera assez proche du Soleil dans le ciel, ce qui ne permettra de la voir que dans les lueurs du crépuscule ou de l'aube, et toujours assez basse vers l'horizon, ouest le soir, est le matin. Selon moi, on pourra essayer de la voir traverser le Lion le matin, entre le 5 et le 11 septembre, puis le soir entre Lion et Vierge, entre le 12 et le 22. Je mettrai les cartes précises dans des positions jour après jour dans le ciel du mois de notre site. Et enfin, le samedi 23 septembre, à 8h49, si on veut être précis, ce sera l'équinoxe d'automne. C'est-à-dire que dans sa course apparente dans le ciel le long de l'écliptique, le Soleil coupe l'équateur de la Terre pour passer dessous pour les 6 prochains mois. Partout, il y aura exactement 12 heures de jour et 12 heures de nuit. La nuit égale au jour, d'où le terme équinoxe qui signifie nuit égale. C'est l'un des deux seuls jours de l'année, avec l'équinoxe de printemps en général autour du 21 mars, où le Soleil se lève exactement à l'est et se couche exactement à l'ouest. Tous les autres jours, il est décalé vers le nord, au printemps et en été, ou le sud, en automne et en hiver. Cela nous donne l'occasion de rappeler que c'est l'inclinaison de l'écliptique par rapport à l'équateur, donc en réalité celle de l'axe de rotation de la Terre par rapport à son orbite autour du Soleil, qui provoque le phénomène des saisons. Selon que le Soleil est au-dessus ou en dessous de l'équateur, les jours sont plus longs ou plus courts que les nuits, et l'intensité du rayonnement solaire plus ou moins fort. Plus les rayons sont obliques, moins ils sont efficaces. D'où une température moyenne plus ou moins forte. Bien entendu, le phénomène est inverse dans l'hémisphère sud. Quand le Soleil est au-dessus de l'équateur pour nous, il est en dessous pour eux. Donc pour eux, le 23 septembre sera l'équinoxe de printemps. Et quelques jours plus tard, ce devrait être notre prochaine chronique astro, le mercredi 27, où nous aurons le plaisir d'inviter à nouveau les représentants des clubs d'astronomie girondins pour nous parler des animations qu'il prévoit pour les deux rendez-vous de début octobre. La fête de la science, entre le 6 et le 16 octobre, et le jour de la nuit, le samedi 14. Je rappelle que le jour de la nuit, c'est une manifestation nationale organisée par des associations de protection de l'environnement, et particulièrement de l'environnement nocturne, pour attirer l'attention du public sur le problème de la pollution lumineuse.
Merci beaucoup Michel pour toutes les informations. C'était Michel Favré pour sa 102e de Chronique Astro.